des maisons individuelles. Alors on appelle ça hôtel à Nantes, hein, c'est un bien grand mot pour ça, mais c'est vrai qu'il y a une habitude, hein, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, hein, d'appeler toute maison un hôtel. Alors ça, ce sont des maisons qui sont financées, en fait ce sont des investissements de Jules Lafond, hein, le père de Georges Lafond. On est en 69-70, on se souvient que Lafond est rentré à l'école des Beaux-Arts en 67, il y a de très grandes chances pour que ce soit Georges Lafond qui les ait faites. Mais c'est indiqué nulle part. Hein. Donc, en bas, vous avez des calques, hein, qui sont les documents qui sont remis à la ville lorsqu'on demande l'autorisation de construire, l'équivalent d'un permis de construire. Hein. Donc, effectivement, on donne un dessin de façade comme ça et puis un plan du rez-de-chaussée, hein, généralement. Sur des calques un peu jaunes comme ça, qui ont tendance à partir en miettes quand ils sont trop vieux, donc il y a un vrai travail de numérisation à faire. Alors pour cela c'est fait, tout va bien, mais c'est vrai que c'est des matériaux, c'est des calques végétales en fait, hein, c'est des matériaux friables, voilà. Et puis donc alors quand on évoquait la question du néoclassicisme tout à l'heure, bon, c'est pas du néoclassicisme, mais disons que effectivement, on est dans la discipline classique qui travaille avec des symétries, avec une certaine sobriété, hein, dans l'organisation des façades, dans le décor architectural, quoique ce soit effectivement déjà, hein, beaucoup plus décoré qu'un néoclassique avec... Alors, où est-ce que j'ai ma petite flèche, là, voilà, ces grands dais, là, au-dessus des portes, etc. Et puis, donc, une utilisation de pierres calcaires en parement. Elles sont des maisons qui sont construites en schiste, hein, local, mais tapisserie, hein, ou un parement en pierre. Alors, ça, c'est plutôt du Sireuil, me semble-t-il, Jacques, qu'est-ce que t'en penses, enfin, non, c'est peut-être du tuffeau, je sais pas, quoi. Voilà. C'est pas du tuffeau.
C'est de Charente, c'était du Saint-Aignan ou un riche
Donc une pierre en fait, hein, des Charentes qui est plus solide, hein, plus dure, hein, que le tuffeau qui était beaucoup utilisé au 18e et dans la première moitié du 19e. Voilà donc un exemple, hein, de ces maisons, ou alors encore une autre maison là, Lafond, en 1868, rue Kléber. Donc la rue Kléber, hein, part du Muséum d'histoire naturelle. Il y a un premier tronçon qui avait été fait en même temps que la place de la Monnaie, et, donc l'ancienne Monnaie dans les années 1820-1830. Et puis dans ces années 1860, on achève la rue Kléber. Et donc la ville de Nantes vend un terrain résiduel à Jules Lafond, qui s'engage à construire rapidement, hein, dans un délai d'un ou deux ans, je ne sais plus. Je pense, hein, toujours que c'est Georges Lafond qui fait le bâtiment, demande l'autorisation de construire, et puis il y a un petit contentieux là-dessus en fait, hein, le Gaillard, qui est l'architecte voyer d'arrondissement, qui n'a pas de formation d'architecte, hein, c'est un géomètre du cadastre à l'origine, en fait demande à ce que la moitié de la pièce noire ou de la chambre aux armoires soit transformé en cour intérieure pour pouvoir aérer les sanitaires dessus. Disant, les sanitaires ne sont pas assez aérés, donc faites une cour dans votre maison. Voilà. Et on voit effectivement, hein, la signature de Gaillard, hein, sur l'ensemble des documents qu'on a vus jusque-là, et puis quelquefois celle de l'ingénieur en chef, hein, qui est vu, hein, l'échalas, ingénieur en chef. C'est toujours un contrôle. Et puis on saute 40 ans, 50 ans, non, 40 ans, pour arriver effectivement dans la période du pittoresque. Alors, en fait, c'est pas très très facile de savoir l'ensemble des maisons qu'a pu faire Lafond à Nantes, parce que il y a ces procédures, hein, de demande de construction, de demande d'autorisation de construire, mais ce sont les propriétaires, hein, qui font la démarche. Les noms des architectes ne sont pas toujours indiqués, et puis surtout, il n'y a pas de dépouillement systématique, il n'y a pas de registre. En 1919, quand on va inventée, entre guillemets, enfin, quand le permis de construire va devenir la procédure obligatoire, générale, etc. Les services municipaux tiennent des registres où apparaissent effectivement au jour le jour, ou année par année, hein, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, etc. Et donc, bah, si on recherche la production d'un architecte à partir de ces années 1910 à 1919, on a des outils. Bon, autrement, effectivement, c'est rue par rue, hein, qu'on a les demandes de construction, et donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc là, effectivement, c'est signé, hein, Lafond. C'est signé en bas, oui. Lafond, Loret, Chauvet. La maison, elle est signée, en fait, gravée dans la pierre, Loret et Chauvet. Hein, Lafond n'apparaît pas sur la maison de la place Émile Saradin. Et donc là, on est effectivement dans un langage néo-gothique. Néo-gothique, mais pas du tout un néo-gothique rationnel à la Viollet-le-Duc, un néo-gothique pittoresque qui va plutôt emprunter au XVe siècle à l'architecture flamboyante, mais qui est surtout dans le motif. Hein. Faut dire, cette maison aussi, c'est une maison qui allie des modénatures de pierre calcaire et des tapisseries en briques, hein, donc blanc et rouge. Polychromie comme ça, qui est la polychromie par les matériaux, qui est quelque chose de très important dans ce discours pittoresque, hein, de la fin du siècle, à la place de ces grandes tapisseries blanches, hein, ou crème, hein, que vous voyez auparavant. Chauvet, donc, d'abord un employé de Lafond, puis son associé. C'est quelqu'un, bon, qui est 30 ans plus jeune que lui, un personnage assez pittoresque aussi, hein, à en croire, hein, les architectes, hein, qui l'ont connu. Et puis Francis Loret, donc l'autre associé, les deux, Francis Loret et Chauvet, vont rester associés une fois qu'ils se seront séparés de Lafond. Ils vont avoir une grosse production de bâtiments industriels à Nantes. D'autres types de bâtiments. Je crois que l'Apollo, hein, c'est le théâtre Apollo, ça doit être eux. Une série de bâtiments très différents, mais beaucoup d'architecture utile, utilitaire en plus, hein, des bâtiments d'habitation. Alors Francis Loret a d'abord été architecte de Redon, hein, avant de devenir architecte de Nantes, architecte conseil de Nantes à la retraite de Marchand, c'est-à-dire en 1907, hein, jusqu'en 1911. Il est par ailleurs très impliqué dans l'habitat social. Il sera le premier président de l'office public d'HBM, ancêtre des HLM de la ville de Nantes, en 1913. Auparavant, c'était l'architecte de la Société nantaise des habitations salubres et à bon marché, et il a fait énormément de petites maisons, hein, économiques à Nantes. Il est par ailleurs architecte des monuments historiques, comme on l'a vu, il est très impliqué également dans la construction des écoles. Hein, il publie un livre, hein, sur les maisons d'école, un programme très important dans la Troisième République, etc. Voilà, donc... À la suite de Lafond, donc un personnage qui va jouer un rôle très important à la fois dans les organismes et puis dans la diffusion d'une certaine culture parallèle de l'architecture. Il est également l'auteur, avec Marchand, ce Loret, d'un manuel administratif à l'usage des architectes, une source effectivement sur le fonctionnement des professions de la construction dans leur rapport avec les institutions publiques, hein, extrêmement important.
Pourquoi est-il à l'île de Nantes ?
Pourquoi, pardon ?
Pourquoi est-il à l'île de Nantes ?
Pourquoi il quitte la ville de Nantes ?
Parce qu'il a été architecte de la ville de Nantes entre 1907 et 1911.
Il était architecte conseil, hein, il était...
À place d'était Coutant, parce qu'il était sur le même poste en 1907.
Alors, en 1905, Coutant postule, Marchand est encore là. Ensuite, oui, alors pourquoi est-ce qu'ils prennent En fait, ils ne prennent pas un architecte dans les services, mais un architecte libéral comme architecte conseil. Et Loret, en fait, hein, va quasiment pas construire pour la ville de Nantes. Il va faire un kiosque à musique, il va faire des urinoirs, il va installer des vases sur le cours Cambronne, des, etc. Mais il va faire très très peu de bâtiments. Et puis, en fait, c'est Bellamy, hein, c'est le nouveau maire Bellamy qui, en fait, veut avoir un architecte, mais là, je ne sais pas d'où vient sa décision, mais il veut avoir un directeur des bâtiments communaux qui serait content.
Je crois que vous avez pas mal de dessins autour de l'absalette, tout ça, avant Coutant.
Le Ray, oui. Oui, oui. Oui, parce qu'il était architecte des monuments historiques en même temps. Donc, il organise les deux ensemble. Oui. Voilà. Donc, alors, petite maison HBM, hein, j'ai évoqué effectivement bon, cette application de Leray hein, dans l'habitation économique, l'habitation salubre et à bon marché. Bon, voilà un exemple hein, d'une petite maison pour la fraternelle. Hein, qui ici est signé par les trois associés. Et, alors, important, la pierre apparente hein, sur cette maison-là. On est donc dans la fin du XIXe siècle où la vérité, alors ce qui était la vérité des matériaux de l'architecture rationnelle hein, dans les années 1860, 70, 80, etc., c'est devenu le pittoresque hein, de la fin du siècle. Avec la brique hein, qui vient se mêler souvent. Hein, vous avez de la brique des petits arcs en brique, là, hein, ou en plein de bandes, là, je ne vois pas trop. Non, c'est un arc. Hein, au-dessus, oui, j'ai une petite image, mais ça au-dessus des fenêtres. Voilà. Donc, polychromie, matériaux, etc. Alors, on est, et puis, donc, le pittoresque, hein, là, merci Alain de m'avoir envoyé le négatif hein, de cette image. Voilà. Le pittoresque va s'exprimer particulièrement dans le balnéaire. Mais il est également introduit en ville, notamment hein, par les petites maisons HBM, comme vous en avez rue Duplex, rue Alfred Riom, etc. Toutes ces maisons construites par des sociétés comme la Maisonnette, dont Francis Leray hein, est l'architecte, souvent avant le Jallet et d'autres. Voilà. Tandis que Lafont, lui, bon, est en train de finir sa carrière et ne rentre pas dans ce jeu-là. Alors, des photos communiquées par Alain Charles. Lafont, dans tous ses CV, se donne comme architecte du château de Briord, en Loire-Inférieure. Alors, le château de Briord, c'est un château du XVIIIe siècle, hein, c'est pour lui qu'il l'a construit. Par contre, effectivement, il est intervenu hein, en entretien, en restauration. Et puis, ce pavillon, hein, construit dans le parc, hein, avec donc ces grandes fenêtres thermales, hein, cette dissymétrie totale issue hein, des théories de Viollet-le-Duc. Hein, pour Viollet-le-Duc, la symétrie était une infirmité mentale. C'est-à-dire, c'était vouloir absolument faire symétrique lorsque les fonctions qui se trouvent derrière diffèrent, c'est absurde. Donc, Viollet-le-Duc accepter tout à fait la symétrie quand vous aviez des fonctions similaires qui se passaient de part et d'autre d'un point central. Mais la volonté symétrique devait être rejetée. Et donc, lui, Viollet-le-Duc a développé des architectures dissymétriques quand il le fallait. Pour bon, à Nantes, le plus bel exemple dissymétrique hein, de Viollet-le-Duc, c'est la volumétrie hein, du musée d'Aubry. Même si c'est pas lui hein, qui l'a terminé, donc le langage néo-roman n'a rien à voir avec Viollet-le-Duc, hein, c'est d'autres architectes hein, qui sont intervenus dessus, pour la fin, mais à l'origine donc, du Viollet-le-Duc. Bon, ici, hein, donc, voilà une maison où, par exemple, on a un escalier, une tour d'escalier qui s'affirme comme un volume, et puis vous voyez effectivement, avec les fenêtres, qu'on est dans l'escalier. Voilà. Et donc on est dans cette expression hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Viollet-le-Duc dénonçait le systématisme de la symétrie. On va passer aussi dans un systématisme de la dissymétrie ou de l'asymétrie hein, par la suite. Mais le pittoresque hein, passe par là. Alors ça, en fait, hein, c'est plus facile à faire à la campagne, hein, dans un terrain libre que dans une parcelle urbaine. Alors dans une parcelle urbaine, effectivement, hein, alors là, on n'est pas à Nantes, on est à la montagne. Donc, Maison de Lafon, communiquée par Alain Charles également. Ah bon, je croyais qu'il l'a fermé comme tel.
La facture des détails signifie la fin.
Oui. Mais alors, il y en a d'autres, hein, qu'à faire ça aussi, oui, tous
Les
les gelées,
détails,
etc.
vraiment, facilement la
Donc là, effectivement, c'est dans le jeu, hein, des volumétries de toiture, dans bon, toutes les fermes en bois extérieur, etc., hein, qu'on vient échapper à l'alignement urbain imposé au sol. Comme les bow windows, hein, sont également des moyens d'échapper à l'alignement, mais c'est la volumétrie possible, hein, la volumétrie libre possible sur une parcelle urbaine contrainte. Et puis le pittoresque par excellence, c'est la maison d'Édouard Say, qui là, effectivement, est bien une maison de Lafon, hein, ça c'est clair, impasse de la Rosière. Alors, dites mosquée, c'est, hein, puisque quand c'est arabisant, on appelle ça mosquée. J'ai vu quelque part le terme aulmoresque. Voilà, donc bah, les baies des arcs outrepassés, hein, donc avec ce resserrement ici. Alors d'un côté, là, on est dans le pittoresque classique, je vais dire, même si c'est un oxymore, on va dire habituel. Et puis donc la maison orientalisante. Il y a un moulin, un ancien moulin ici. Et puis donc derrière, on voit la tour du musée d'Aubray, hein, qui ne fait pas partie de la maison. Tout un langage, hein, à la fois décoratif et volumétrique, qui a beaucoup amusé Lafon. Comment? Démoli, oui. Et non, ben ça, c'est des photos inventaires avant démolition, comme malheureusement ça arrive souvent. Je ne sais pas s'il y a des relevés. Hein. C'était dans les années, début des années 80, je crois, cette démolition. Voilà une salle intérieure alors qui a servi d'atelier là à un moment donné on voit qu'on rangeait les outils là. Donc avec bah, l'espèce d'échauguette là en bois la loge en bois et tout ça voilà donc là effectivement pas très bon état et puis il y avait une grande verrière hein, donc là Lafon s'amuse hein, complètement alors pourquoi est-ce que c'est hein, donc famille d'industriels du sucre hein, pourquoi s'amuse-t-il hein, sur une maison mauresque hein, ça, je ne sais pas. Il y a plein d'interrogations, en fait, hein, dans ce que je vous dis. Hein, Et puis, donc, une photo, en fait, hein, de l'atelier de Lafon, hein, qui montre un peu le goût de l'exotisme de l'architecte. Donc, ça, c'est extrait du livre de Perrault-Charmantier sur le clou, dont toujours on vous parlera tout à l'heure. Et l'architecture industrielle. Alors, l'architecture industrielle, ça pourrait effectivement être une architecture très sobre, très fonctionnelle, etc. Le pittoresque s'y installe aussi. Alors, Lafon est l'architecte de Lefèvre-Utile. Hein, donc, c'est lui qui entretient, qui construit certains bâtiments des usines de Lefèvre-Utile, qui entretient, etc. Et il est également, avec ses associés, l'architecte d'opération pour le packaging en fait hein, des usines LU, c'est-à-dire le bâtiment courbe là, dans lequel est actuellement le restaurant et puis la tour hein, qui viennent, enfin les deux tours qui viennent en fait hein, emballer. LU est un très bon hein, dans l'empaquetage et le marketing par l'emballage, ben, il a fait la même chose, hein, il a emballé ou empaqueté son usine travaillant donc avec un architecte parisien qui s'appelle Bluyssen, hein, mais Bluyssen était à Paris et c'est donc Lafon à Nantes hein, qui construit hein, ces tours que vous connaissez, avec donc Lafon et Chauvet, hein, c'est signé Bluyssen, Lafon et Chauvet, hein, le Ray n'est pas dans le Le Ray n'est pas dans l'affaire. donc architecture métallique. Hein. Et puis, une fois que la fonte aura cessé de travailler, Leray et Chauvet hein, vont continuer à travailler pour lui, et sont notamment les auteurs du bâtiment d'expédition. Alors, il n'a plus du tout cette allure-là, il a été pas mal transformé, ce bâtiment d'expédition qui est un petit peu plus loin, là, à l'angle de la rue Fourée et de l'avenue Carnot. Voilà le projet. Alors, en fait, il y a deux projets, un projet de 1919, un projet de 1921. Ce sont de très vieilles photos, et je ne sais plus lequel des deux j'avais photographié à l'époque. Et puis, je n'ai pas pu retourner aux archives avant la conférence. J'ai des petits problèmes de locomotion actuellement. Donc, je n'ai pas pu faire la vérification. Mais donc, ça, c'est du Leray et Chauvet hein, qui poursuivent hein, les travaux après la fin. Donc vous voyez qu'il y avait en fait à l'origine un projet de deux petites tours couronnées hein, qui faisaient référence aux deux grandes tours hein, de Bluisède à l'entrée de l'avenue Carnot. Bon, Lafont est intervenu sur un certain nombre de bâtiments hospitaliers, notamment l'hôpital de Saint-Nazaire. Alors là, c'est un peu difficile aussi, quand il écrit hein, sur son CV, hôpital de Saint-Nazaire, 60 lits. En fait, on trouve ailleurs un hein, service généraux, cuisine et dépendance hein, de l'hôpital de Saint-Nazaire en 1896. Sur ce document des archives départementales, hein, on lit en haut à droite « Les bâtiments teintés en noir sont construits, tous ceux teintés en rose sont à construire. Le présent projet, dressé par l'architecte Soussigné Saint-Nazaire, septembre 1890, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 96, oui, j'ai 90, signé Pecot. Alors Jean-Pierre Pecot, hein, c'était l'architecte de la ville de Saint-Nazaire, élève de Questel également, hein, comme Lafont, mais antérieurement. Vu l'architecte sous-signé, remplaçant Pecot décédé, c'est signé Georges Lafont. Voilà. Donc il intervient en fait après Pecot. Il est responsable des bâtiments qui sont roses, notamment les services généraux qui sont là. Mais bon, il ne reste rien de toute façon, donc on ne peut pas savoir quelle allure ça avait. Architecte de l'hôpital du Leroux-Bottereau, la chapelle photographiée par Alain Charles en bas à droite, et l'hôpital de Saint-Étienne de Corcouet. Alors, Saint-Étienne de Corcouet, un hôpital, je ne sais plus combien de lits, mais là, c'est vraiment lui, effectivement, à 100%, et il est lauréat d'un concours hein, pour cet hôpital-là, hein, dans les années 1890. Donc, on est, en fait, à un moment où, pour l'hôpital, il travaille, en fait, avec le système qui s'est mis en place à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'est beaucoup développé au XIXe, de l'hôpital par pavillon, de l'hôpital en grille, hein, avec l'organisation donc à partir souvent d'une chapelle hein, qui va former l'axe, ou d'un motif architectural hein, qui amène effectivement une verticalité dans l'axe, et puis une organisation effectivement de cours et de bâtiments hein, qui se développent en grille, formant des cours carrés plus ou moins ouvertes. Hein. Alors l'hôpital par pavillon, en fait, hein, installe dans la grille des pavillons isolés qui sont uniquement reliés par des galeries. C'est le système de l'hôpital Saint-Jacques, par exemple, hein, où c'était le système de l'hôpital, l'Hôtel Dieu de Nantes de Chenantais, là, avant le CHU actuel. Alors là, on est dans des hôpitaux beaucoup plus modestes, hein, des hôpitaux ruraux, mais où on reprend effectivement bon, ce système extrêmement régulier. Et puis le pittoresque, en fait, il est là dans l'expression des matériaux. La brique, le schiste, le calcaire, polychromie, hein, à travers les matériaux. Et puis donc, dans l'hôpital, hein, une recherche d'aération et d'éclairement maximum qu'on retrouve également dans l'architecture scolaire, etc. Enfin, les grandes baies, donc une grande baie, il y a deux solutions effectivement pour avoir une grande baie. Soit vous mettez une poutre métallique, hein, soit vous faites un arc. Hein, la plate-bande effectivement étant réservée aux fenêtres hein, plus petites, comme donc ces grands arcs surbaissés avec donc ici hein, cette confrontation des matériaux hein, dans la lecture pittoresque. Et puis son grand œuvre sanitaire ou hospitalier, c'est l'hôpital maritime de Paimbron, 400 lits. De 1887 à 1905, hein, l'ensemble hein, de la construction. Donc, une situation privilégiée hein, à la pointe de.
C'est le départ de Paimbron et les plans de 1896.
1887, oui.
En 1896, les dessins de Lafont, mais l'hôpital de Paimbron démarre en 1886.
Ah oui, d'accord, oui. La Fonde intervient en 96. Excusez-moi. C'est pas grave. Voilà. Donc, là encore, alors je dois avoir le plan hein, de l'ensemble de l'hôpital. Donc, organisation donc, en grille avec deux grandes cours hein, qui sont définies par les bâtiments latéraux, une chapelle dans l'axe, des bâtiments isolés ici. Donc, on a... Je ne sais pas si c'est lisible, hein, l'ensemble des affectations. Donc l'hôpital, en fait, rationnel, à la fois dans son plan masse, dans sa structure, l'architecture rationnelle avec donc chaque pierre, donc à la Viollet-le-Duc, hein, qui vient jouer un rôle précis dans la construction. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir un motif sculpté qui va passer d'une pierre à l'autre. Hein, c'est chaque pierre qui est le motif, chaque pierre qui est un moment de la construction et qui est décor en elle-même dans ce type d'architecture. Contrairement donc, à ce qui pouvait se passer au début, où une moulure hein, court sur l'ensemble hein, des pierres de l'appareillage.
Quelle était la fonction de cet hôpital à cette date-là ?
C'est un hôpital à la campagne ? C'est pas la campagne, c'est au bord de la mer. C'est un sanatorium, en fait. Alors, on lit hein, dans la construction moderne, en janvier 1908, hein, après la livraison, l'hôpital marin de Paimbron est situé comme un navire au milieu de l'océan, à la pointe extrême d'une étroite presqu'île. Les eaux de l'Atlantique l'entourent, l'enserrent et l'enveloppent presque, tandis que l'air salin et les brises de la mer soufflent de toutes parts autour des bâtiments et y pénètrent pour porter dans les salles, dortoirs et infirmeries leur puissance thérapeutique, bienfaisante à de malheureux enfants, faibles de constitution, après ça continue, débiles, etc. Le bâtiment principal, le dernier construit par M. Lafont, architecte à Nantes, fait face au Croisic. Les pierres fournies par les carrières nombreuses dans cette région ont une tonalité tantôt grisâtre, tantôt bleuâtre, qui, grâce à la diversité de leurs diverses nuances, il n'a pas trouvé un autre mot, permet des effets décoratifs très heureux. Donc la polychromie hein, par le matériau, hein, ça c'est vraiment souligné par le commentateur hein, de l'époque. Voilà, un petit coup de ciel bleu là-dessus pour clicher à la charge. qui avait choisi son jour. Voilà, donc là on est sur la partie qui fait face au croisic, et puis, on va dire, une rationalité un peu adoucie par des clins d'œil à l'Art Nouveau, avec notamment le dessin des ferronneries, qui viennent à me donner un petit peu de jeu et de souplesse à tout ça. Autre intervention de la Fond Architecture Scolaire. Transformation du grand et du petit séminaire en l'École nationale professionnelle, l'IVET. Donc, comme vous le savez, l'État rachète l'institution l'IVET, qui est une institution privée, je ne sais plus si c'est 1897, 99. Bon. À la fin du 19e siècle. Et il faut trouver. Donc au départ, l'IVET reste dans ses locaux, mais la séparation de l'Église et de l'État et donc le fait que le grand séminaire soit libre est une opportunité donc pour installer le lycée, enfin ou l'école dans ses locaux. Alors qu'est-ce que c'est en fait qu'un séminaire? C'est une école avec des salles de classe et des chambres, plus une chapelle. Alors, c'est vrai que dans l'école nationale professionnelle IVET, il n'y a pas forcément besoin d'une chapelle. Par contre, avoir une grande salle, c'est utile. Alors, Lafond, en fait, dans ses plans, indique sur la chapelle salle de conférence et dans la crypte de la chapelle, musée technique. Alors, ce que je ne sais pas, c'est en quoi ça correspond à une demande du programme et ou ce qui est du choix de l'architecte dans cette organisation. Est-ce qu'il y a vraiment un musée technique ou pas à l'époque dans le lycée? Je ne sais pas. Voilà. Alors, on peut faire des références un peu à l'histoire de bâtiments d'enseignement. Si on remonte au XVIIIe siècle, à l'école de chirurgie de Gondouin, à l'époque en fait où la chirurgie d'art manuel devient un art libéral, c'est le moment où le premier chirurgien arrive à l'Académie des sciences, etc. L'Académie de chirurgie va construire une nouvelle école et à partir du portique sur la rue de l'école de médecine aujourd'hui, vous avez une vue dans le fond sur l'amphithéâtre, une cour carrée, un amphithéâtre dans le fond, l'école des beaux-arts, Duban, dans les années 1830, un bâtiment en quadrilatère, une grande cour qui sera vitrée par la suite par Coquart, et dans l'axe, le grand amphithéâtre, une salle de conférence. Ou encore un autre exemple local, l'école professionnelle de Nantes, l'école municipale, l'ancienne EPS, c'est-à-dire le lycée Le Loubouillé, qui est reconstruit par De Mauget dans les années 1880, De Mauget étant l'architecte en chef de la ville. La même chose, une grande cour carrée, donc avec son préau, et dans le fond, l'amphithéâtre. Voilà. On est dans une image habituelle depuis le milieu du XVIIIe siècle du bâtiment d'enseignement organisé, donc fermé, organisé autour d'une cour avec le grand amphithéâtre dans le centre. Alors, certains bâtiments comme l'école de médecine, en fait, on voit l'amphithéâtre quand on passe dans la rue et déjà, Gondouin s'exprime en disant que c'est un appel pour que les gens rentrent et viennent assister aux leçons, etc. Dans d'autres lieux, ce sera plus fermé. Il faudra vraiment passer un seuil pour ensuite, comme l'école des Beaux-Arts par exemple, avoir vu sur l'amphithéâtre. Mais quand ici, en fait, on dit on va faire de la chapelle la salle de conférence, on est tout à fait. Bon, non seulement on a la grande salle et on va l'utiliser, mais aussi il y a cette configuration qui est déjà en place et qui va pouvoir être utilisée donc, pour rentrer dans le système habituel. Alors, il va falloir aussi réutiliser l'ensemble des bâtiments, les deux ailes. Alors, je vais revenir ici. Alors, est-ce que c'est lisible là? Vous aviez toute une série de chambres, hein, en jaune, si on a de bons yeux. On voit les cloisons des chambres qui sont détruites, donc jaunes, et les dortoirs, hein, qui sont mis à la place des chambres. Bon, ce n'est pas la même population, ce sont des élèves plus jeunes. Ce n'est pas des étudiants prêtres. Donc, voilà, autre... et puis, donc, des systèmes de lavabos, hein, de sanitaires communs qui sont installés face, hein, face au dortoir. Voilà. Donc, ici, on a effectivement l'aile, la grande aile, et puis ici, on a l'aile qui n'a qu'un versant, hein, de toiture, hein, ce qui fait effectivement un dortoir, et puis une circulation ici. Donc, il y a une circulation. Un couloir qui vient s'installer le long du mur, alors que de l'autre côté, en fait, hein, on peut ménager, hein, donc les lavabos, hein, ici. Petite intervention sur les distributions et les circulations à l'intérieur. Des portes sont percées. Alors, nos... n'aurait jamais mis un linteau métallique, un eau qui est donc l'architecte diocésain qui a construit ce grand séminaire devenu lycée Lévêque, n'aurait pas mis de linteau métallique. Bon, c'était... Il aurait pu, hein, à cette époque-là, hein, c'était... mais bon, ce n'était pas son truc. Là, la fond, hein, donc, vient installer un certain nombre, hein, de linteaux métalliques, hein, pour les baies de grande portée. Et puis... en dehors, effectivement, du bâtiment des salles de classe et des dortoirs, donc ça va être les ateliers, hein, ateliers d'ajustage, avec donc une réflexion, en fait, hein, sur la circulation, sur la surveillance, sur la distribution des matières premières, des outils, etc. Bon, le poste, hein, de surveillance, hein, qui se trouve là, avec son accès par l'extérieur. Après, on peut redescendre dans la salle, etc. Bon, les vestiaires à droite, à gauche, bon, l'organisation, hein, qui correspond donc à un fonctionnement précis. Charpente métallique, hein, là-dessus. Un système d'atelier avec des sheds. Donc on est vraiment dans l'architecture industrielle, hein, qui, donc, à laquelle le Ray Chauvet, Lafond, le Ray Chauvet s'était habitué, hein, en travaillant pour les industriels nantais, et donc pour un établissement d'enseignement professionnel où ils ont l'habitude, hein, ou du moins Lafond, hein, à l'usage de ce type d'architecture. La menuiserie, alors là, la menuiserie, la charpente est en bois, une espèce de mimétisme, avec un système de clins de bois pour la ventilation, hein, qui se trouve ici. Alors, je pense que c'est un niveau de dépôt, hein, ce niveau. Et puis la forge, alors là, du coup, pour la forge, on va aller chercher une charpente métallique, là, une espèce de... C'est ça, bon, avec à chaque fois, effectivement, qu'il le faut, la cheminée. Alors, on remarque, petit détail, oui, du dessin de Lafond. Oui. Ici, on voit que entre la façade côté parc et la façade côté rue, on voit que le vent souffle toujours dans le même sens. Alors que les conventions du dessin d'architecte, en fait, c'est pareil pour les ombres, d'avoir toujours l'ombre qui vient de gauche. C'est-à-dire que quand vous passez derrière le bâtiment, en fait, le soleil passe de l'est à l'ouest, peu importe, mais l'ombre vient tout... Alors que là, pour le vent, hein, Lafond retourne bien le sens de ses fumées, toujours dans ce petit souci rationnel, semble-t-il, de représenter les choses telles qu'elles sont. Et puis, bon, le éclairement maximum avec les linteaux métalliques, hein, qui viennent donc couvrir les baies. Alors ici, un bâtiment, l'infirmerie, qui est un bâtiment un peu plus banal, en fait, hein, Et puis je vais terminer par ce que Lafont voulait donner comme un monument gay, qui est le théâtre et salle des fêtes de Quimper. J'ai pas abusé. Oh là là, si, j'ai abusé de mon temps. Je ne pensais pas avoir été si long. Voilà, théâtre municipal de Quimper, qui aujourd'hui est, je crois qu'il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, 1902-1904. Alors, un bâtiment, en fait, hein, pour lequel Lafont fait référence hein, au casino de station thermale. Hein, c'est un théâtre et salle des fêtes. Hein, dans une ville, Quimper, qui n'est pas une ville particulièrement joyeuse en elle-même, hein, mais donc c'est ce bâtiment qui doit venir sur les bords de l'Audet, hein, venir apporter de la gaieté. Alors, les pavillons carrés hein, latéraux, avec hein, leur dôme à base carrée, qui viennent encadrer en fait hein, ces trois baies plein cintre. Et puis on voit donc en arrière hein, le volume de la salle, de la grande salle, hein, qui se détache. Quoi. Enfin bon, le modèle de l'Opéra de Paris, hein, qui est alors, pas dans la configuration du bâtiment, mais la salle hein, qui émerge comme ça. Hein, mais c'était l'Opéra de Paris, mais c'était aussi le Grand Théâtre de Bordeaux, hein, de Victor Louis au XVIIIe, etc. Bon, enfin bon, toujours ce volume de la salle qui émerge hein, derrière un frontispice hein, dans le bâtiment du théâtre. Alors, dans le bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes, en 1902, hein, on voit une mention de ce bâtiment-là. « Dernièrement, nous avons vu avec quel empressement on a accueilli la création de la Société des artistes nantais, dont donc Georges Lafont fait partie. Donc, il y a eu une grande fête. » Il y a une grande fête hein, pour inaugurer hein, cette Société des artistes nantais. Et lors de cette grande fête, Georges Lafont, notre habile architecte, le patron des artistes, oui, a donc, je ne sais plus s'il a fait, enfin bon, il a porté des toasts, mais là, on dit, c'est 1902, c'est l'architecte du monument de Quimper. Voilà, à ce moment-là. Voilà, donc, renommée interdépartementale de Lafont autour de ce théâtre de Quimper lié à la question de la fête. Et j'ai fini, j'espère ne pas avoir trop abusé parce que je m'aperçois que j'ai été très long.